Mahmoud ou la montée des eaux est publié chez Verdier. C'est votre nouveau roman, Antoine, un roman poème qui raconte la dérive d'un vieil homme en Syrie. Il est sur une barque au milieu d'un lac et il va se remémorer sa vie et son pays massacré par les tyrans. Et ce lac, il existe, il recouvre même d'anciennes habitations.
Oui, c'est le lac El Assad, précisément, qui est la conséquence de la construction du barrage de Tabqa au début des années 70. Et c'est le premier giga-barrage que Hafez, le père de Bachar, va construire pour marquer son accession au pouvoir. Mais donc, c'est un symbole très très fort du parti basse. Et ce qui m'a interrogé dans cette histoire, c'est que précisément en essayant de marquer son territoire et de montrer combien il va aider le peuple syrien en leur promettant une agriculture plus développée, etc., précisément il va noyer 11 000 familles et ça va créer 60 000 déportés, des gens qui vont devoir se reloger dans la ville nouvelle de Tabqa et puis dans plein de villages sur les hauteurs.
Voilà, et votre personnage, Mahmoud El-Mashi, il a justement vécu ici. Il est à la fin de sa vie, il a vécu aussi tant de drames, subi tant de pertes. Il dira être le père d'enfants partis se battre n'est pas seulement étrange, c'est une chose insensée. Et puis aussi un peu plus loin, quand on perd un enfant ou plusieurs enfants, on ne peut plus avoir un buisson de lumière dans le cœur, je le sais. On ne peut plus avoir qu'un ridicule morceau de joie.
Mais c'est quelqu'un qui a tout perdu, c'est-à-dire que la politique des Al-Assad, le clan Al-Assad, tout ça lui a été repris, sa vie, son passé, son histoire. Il a connu la prison, il a été enseignant dans une première vie. Il devait enseigner à ses élèves des choses pro-régime. Donc il y a dans le livre toutes ces rengaines qu'on met dans la tête des enfants syriens. Ça se passait à l'époque de Hafez, ça se passe encore et toujours sous Bachar. Et donc du jour au lendemain, Mahmoud va en avoir marre, il va essayer d'arracher une forme de liberté dans ce pays. Mais effectivement, il a tout perdu. Ses enfants sont partis se battre. Le livre finalement parle de ce qui se passe après les révolutions, après les printemps arabes,
ouais,
après 2011.
Ouais. Et on imagine hein, comme ça par petite touche ce qui lui est arrivé, parce que vous ne dites pas nommément les choses. Il y a des subtilités comme ça, des allusions. Mais il raconte sans concession, en tout cas, l'ascension au pouvoir de Bachar el-Assad, celui qu'il nomme l'ophtalmologue, hein, parce qu'il était ophtalmologue, et qui n'aurait pas dû succéder à son père Hafez. Ce n'est pas ça qui était prévu au départ. C'était le frère qui devait arriver au pouvoir.
C'était Bassel, c'était le frère aîné, c'était lui qui en avait vraiment formé dans la tradition. Hein. Donc, il était excellent parachutiste. Il était très fort physiquement, il était stratège, il était formé militairement. Et quand il décède par hasard, enfin tragiquement, mais dans un accident de voiture, Bachar, qui est à l'époque à Londres, il étudie, il est ophtalmologue, il se destine une carrière. Lui ne veut pas entendre parler de la politique, il déteste ça. Et il dit d'ailleurs à Londres à sa femme Asma, qu'il rencontre là-bas à Londres, il lui dit « moi j'ai pas de goût pour ça, j'ai pas de goût pour la politique et je suis quelque part très heureux de faire ce que je fais là ». Sauf qu'on va le rappeler. Et il va être renvoyé en Syrie, il va être formé de façon assez expéditive, mais à l'école militaire de Homs. Et ce type qu'on qualifie de timide, etc., va devenir le Bachar qu'on connaît aujourd'hui et le boucher de Damas, comme on l'appelle.
Ouais, il devient un autre, dites-vous, il devient un monstre inattendu. Mahmoud critique aussi les Syriens, lui compris, car ils se sont laissés dominer par le père, puis par le fils. C'est un peu comme s'ils s'étaient laissés faire, c'est ça que vous laissez entendre ?
Mais ce livre, c'est vraiment un hommage aussi qui fait suite à des lectures de poètes syriens. J'ai découvert ça c'est une anthologie de poésie syrienne qui est parue il y a quelques années au Castor Astral. Et il y a quelques poètes qui parlent de ce qui se passe justement au moment des printemps arabes et qui se disent, OK, cette manifestation, ces envies de liberté, elles sont totalement légitimes. Mais essayez de vous souvenir qui vous avez en face de vous. Bachar est un monstre, d'ailleurs c'est dans le nom même des Al-Assad, parce qu'à la base il ne s'appelle pas Al-Assad, il s'appelle El-Wash, le monstre. Et ils se disent, ces poètes-là écrivent, faites attention, on se dirige vers une grande tente funéraire, ça va être terrible ce qui se passe, parce que la répression sera à la hauteur de ce que vous êtes en train de revendiquer. Et quand on voit ce qui se passe, les quelques leaders des révolutions, du printemps de Damas, quand ils se sont manifestés, qu'ils se sont mis à chanter des chants anti-Bachar, ces gens-là, Ibrahim Kakouche, par exemple, ont été immédiatement assassinés. Donc ça vient de là, cette espèce de réserve qu'il a, Mahmoud. C'est pas qu'il n'y croit plus à tout ça, mais il sait que la tyrannie engendre la tyrannie. Et dans le clan Al-Assad, c'est vraiment une sorte de circularité qui est d'hérédité, qui est parfaite, puisque le fils à Faisal Assad Junior est déjà prêt à prendre la relève là actuellement.
Ah oui, 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 oui. Vous écrivez, telle fut la devise de nos dirigeants, nous changer en moutons doublés de pauvres ignares afin de pouvoir nous manipuler à leur guise. Et lui, justement, on l'a empêché d'écrire ses poèmes. Il a fait de la prison pour ça dans votre histoire.
Exactement, oui, oui. Je suis tombé finalement sur le récit aussi de Farage Beragdar, qui est un poète syrien qui a été emprisonné. Lui, c'est dans la prison de Palmyre et c'est sous Hafez, donc c'est dans les années 80. Je me suis dit que Mahmoud devait porter une parole de paix, une parole de paix, une parole de poésie, c'est-à-dire un autre rapport au langage. Essayer de remettre un minimum, un petit peu d'humanité dans cette gigantesque boucherie. Et Farage Beragdar, donc, qui a connu ces emprisonnements-là, il raconte que sa poésie, la poésie qu'il écrivait mentalement, puisqu'il n'avait ni feuille, ni papier, ni rien, mmh. il composait des vers dans sa tête, et mmh. Il raconte aujourd'hui que c'était sa manière à lui d'emprisonner la prison.
Mais beaucoup de poètes, hein, qui étaient emprisonnés, ont écrit comme ça dans leur tête. Et quand ils sont sortis, ils ont réussi à retranscrire, c'est incroyable. C'est le cas de Mandelstam, par exemple.
Exactement.
Antoine Waters, votre roman est d'une grande force, très réaliste. On croirait lire le témoignage d'un Syrien, vraiment, et sans Chalon qui est à mes côtés, qui connaît la Syrie, va lire votre livre et je pense qu'il sera de mon avis. On se demande comment vous avez fait pour être aussi juste, aussi précis dans cette histoire. Alors vous allez me dire, c'est le talent du romancier. Oui, quand on invente des lieux, quand on invente des personnages et des situations. Sauf que là, tout existe vraiment. Comment avez-vous fait ?
Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a, je voulais faire parler un vieil homme. Je ne suis pas vieux encore.
Et en plus, ouais, vous
tout
êtes
à
jeune.
Fait. Ouais. Mais j'ai toujours fait parler des jeunes gens dans mes livres et ici, peut-être parce que j'ai quand même 40 ans et que le monde, pour le moment, m'inspire plutôt une forme de nostalgie. Je me suis dit que ce monde noyé, ce monde enseveli, les villages de Mahmoud, ce qu'il a connu, son enfance, ça me parlait terriblement. Je vieillis, la nostalgie apparaît. Mais par rapport au contexte réel, à la Syrie actuelle, je me suis évidemment terriblement documenté, puis j'ai eu la chance de rencontrer aussi des poètes syriens, et notamment Saleh Diab, qui est un intellectuel syrien, qui est venu en Belgique dans une maison d'édition où je travaille. Et cette rencontre m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que jusque-là, je me documentais, j'essayais de regarder cette réalité difficile droit dans les yeux, et puis sa fréquentation, la fréquentation de ces poètes, et puis le fait de me dire « je vais me tenir sur ce lac, précisément dans une barque qui sera à la frontière du ciel et du reste, à la frontière du rêve et de l'oubli, de tout ça », je me suis dit que c'était le seul endroit possible. Un lac, un homme, une parole poétique pour essayer de ramener quelque chose d'essentiel dans ce monde terriblement abîmé.
Eh bien, c'est réussi, Antoine. Vraiment. C'est
Merci
vraiment
beaucoup.
Une perle. C'est incroyable ce que vous avez fait. N'étant pas syrien, n'ayant pas vécu les drames de la Syrie, d'avoir réussi à vous mettre dans la peau comme ça de ce personnage. Je vais terminer avec un extrait de votre livre. Toute ma vie, j'ai écrit parce que je souffrais de voir se briser ce pays, celui des rêveries de l'enfant. Toute ma vie, je l'ai passé à me battre pour conserver le privilège de pouvoir respirer auprès de vous. Mais en contrepartie, je tombais malade, tant je ne comprenais pas la brutalité de la bêtise, ni notre frénésie à rendre le monde tel, stupide et violent. Merci beaucoup Antoine Waters.
Ben merci pour tout ce que vous avez dit, ça me touche énormément, merci beaucoup.
Mahmoud, La Montée des Eaux est paru chez Verdier, c'est la perle de cette rentrée, félicitations à vous et à votre éditeur.